14, c'est le grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous Mathieu Charrier et à présent votre premier invité.
Oui, je suis très heureux d'être en ligne avec Patrick Peloux, bonsoir.
Mais moi aussi, bonsoir.
Médecin urgentiste, président de l'Union des médecins urgentistes hospitaliers de France, vous étiez en ligne avec nous la semaine dernière à la même heure. Première question simple, depuis il y a eu le confinement, le Covid-19 qui gagne du terrain, qu'est-ce qui a changé pour vous au quotidien? Comment ça va ce soir?
Ce soir, la situation dans les services d'urgence est très disparate à travers la France. Mais ce qu'on constate tous, parce qu'on a fait avec la MUF, on a fait le point tout à l'heure, c'est l'Association des médecins urgentistes de France. En fait, toutes les activités qu'on a classiquement au niveau des urgences sont totalement modifiées. Parce que, évidemment, comme il y a le confinement, il n'y a plus d'accidentologie, il n'y a plus d'accidents du travail. Donc, il y a une partie de notre activité qui se sont arrêtées. Par contre, de manière très disparate, mais un peu partout en France, il y a des patients qu'il faut prendre en charge pour suspicion du Covid-19. Donc ça c'est un enjeu important. Il y a bien sûr depuis la semaine dernière, vous l'avez souligné sur Europe 1 à plusieurs reprises, vous avez un gros problème dans l'Est, d'accord. La nuit dernière, ils ont intubé 29 malades aux urgences de Mulhouse. C'est du jamais vu, hein. D'habitude, on intube en moyenne un malade par semaine sur les 24 heures par jour. Donc, c'est très rare. Et donc, il y a une situation qui empire. Les constats à l'intérieur de la profession, à la fois des réanimateurs et des urgentistes, c'est qu'en fait, on est frappé par le fait que les patients sont plus jeunes que ce qu'on nous avait dit avec les chiffres de la Chine. C'est-à-dire qu'on voit énormément de personnes de 40 ans, 50 ans, en fait.
Oui, c'est pas que des personnes âgées.
Ouais, plus que de personnes âgées. Ouais, actuellement, c'est ça. Ouais.
Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a un peu plus d'une heure, là, a dit que les masques, ça y est, commençaient à arriver, que la chaîne d'approvisionnement se met en place, on en commande des millions partout dans le monde. Vous les voyez arriver dans les hôpitaux, ça y est, vous êtes équipés?
Alors non, c'est très disparate, mais je fais confiance au ministre, parce que je pense qu'il a les informations qu'on n'a pas et qui remontent des industriels, et moi je crois au sursaut patriotique de nos industriels, enfin je le veux d'ailleurs. Donc d'un coup ça suit son cours en fait, je pense que les masques vont arriver, il est temps qu'ils arrivent bien entendu pour les personnels hospitaliers, mais aussi pour les médecins, les infirmières de ville, hein, qui font un travail absolument essentiel au niveau des secteurs de ville, et puis bien entendu les EHPAD. Mais il ne faut pas oublier, parce que ça c'est hyper important, la santé ne peut pas tout, et il faut absolument que l'ensemble des services qui font tourner la société, même au ralenti, je pense aux éboueurs, je pense aux policiers, je pense aux facteurs, à ceux qui font l'électricité, qui nous permettent de nous parler grâce au téléphone, etc. Il faut que c'est l'ensemble de ces personnes qui ne peuvent pas être confinées pour que le pays continue à tourner et des masques. Donc c'est un enjeu énorme. Je pense qu'il faudra en tirer des conclusions sur l'indépendance de notre pays, sur la stratégie politique de notre pays.
Patrick Peloux, il y a ces vidéos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On voit les services hospitaliers italiens complètement débordés. C'est ça qui nous attend aussi en France dans les jours qui viennent?
Je ne le souhaite pas, et on fait tout pour que ça ne soit pas ça que nous ayons. Mais c'est très difficile parce que vous savez, ce qui est en train d'être vécu par dans l'Est de la France, sur Mulhouse, sur Belfort, Montbéliard, c'est quand même quelque chose d'important, de grave. Et j'espère que c'est pas ça qu'on aura. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de santé italien a été totalement laminé par la politique ultra-libérale, totalement débile de Berlusconi. Sachez qu'en Italie, ils ont moitié moins de réanimation que nous, par exemple. L'état de santé des Italiens, en termes de santé publique, ils n'ont rien eu. En termes de médecine préventive, ils n'ont rien, etc. Donc, c'est une population qui est totalement différente de la nôtre. Nous, je pense qu'on est plus armés à affronter cette vague, mais qui va arriver de la même manière, de toute façon.
Il y a aussi ce document, Patrick Peloux, priorisation de l'accès aux soins, dont on a pris connaissance dans la presse, qui doit en principe vous aider à faire le tri dans les malades le jour où vous allez peut-être être débordé. Lesquels soigner, lesquels, pardonnez-moi l'expression, sacrifier, vous y êtes prêt aujourd'hui à faire ces choix?
On y est prêt, mais vous savez, il ne faut pas faire plus peur aux gens que ça. On ne va pas trier les gens en disant « lui, il va mourir, lui, il ne va pas mourir ». C'est pas ça du tout ce qu'on est en train de mettre en place. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de dire que de toute façon, on ne va pas faire ce qu'on ne fait pas d'habitude par rapport à la loi bioéthique et l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle déjà, les personnes qui sont en fin de vie, en perte totale d'autonomie, grabataires et démentes, on sait qu'on ne les sauvera pas. Donc on ne va pas utiliser des lits de réanimation et des prises en charge pour essayer de sauver des gens que d'habituellement nous ne sauvons pas, parce qu'on ne peut pas les sauver. D'accord ? Donc c'est dans ce sens-là que ce guide a été fait, pour que finalement on ne sature pas les réanimations avec des gens qu'on ne sauvera pas de toute façon, pour privilégier ceux dont on est sûr que l'on peut avoir un pronostic favorable. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais n'ayons pas un discours pour dire aux gens « Attendez, maintenant vous allez être triés et puis non, c'est pas du tout. On va prendre en charge tout le monde, de toute façon, et on va essayer de sauver le plus de monde possible. » C'est pour ça, à ce propos, que dans le débat par rapport à la Nivacine et au Zitromax, nous, on est plutôt à l'Association des médecins urgentistes de France. On est favorable à la prise en charge et à la thérapeutique qui est élaborée à Marseille par le professeur Raoult. Et qu'elle
pour expliquer, ce sont des médicaments qui, selon le professeur Raoult, il y a des tests qui sont en cours, mais pourraient aider à soigner les patients atteints de coronavirus.
Oui, oui, oui. Et nous avons des informations concordantes de terrain de collègues médecins qui les ont employés et qu'il y a eu des améliorations des malades. Donc, il y a un moment donné, puisque c'est un débat qui dépasse maintenant le débat simplement des universitaires, qui quelques-uns voulaient garder pour eux d'ailleurs, mais maintenant c'est un débat qui est politique, stratégique et qui est dans le domaine public, et donc il faut prendre parti, et je pense qu'on a raison, il faut mettre toutes les chances du côté des malades.
Et ça donne un petit peu d'espoir, effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez, Patrick Pelloux, chaque soir, quand vous entendez ces centaines de milliers de personnes, peut-être même millions de Français qui applaudissent à leur fenêtre, qui vous applaudissent, vous les soignants ?
Ça fait chaud au cœur, mais je le prends pas pour moi. Je pense qu'ils applaudissent la France. Je pense que c'est une espèce de communion. On s'applaudit nous-mêmes, en fait. On se donne de l'espoir. C'est un petit peu un acte vraiment de fédération de la population. Et c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on se dit que, vous voyez, là je suis de garde ce soir au SAMU de Paris, eh bien je suis fier d'avoir cette fonction et je veux croire que je suis utile à la population et aux malades. Voilà, on prend des risques, parce que il faut le souligner, beaucoup de médecins tombent malades, d'infirmières, d'aides-soignants, d'ambulanciers, parce qu'ils ont été en contact avec le virus. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut qu'on soit bien protégé pour bien travailler et faire notre métier jusqu'au bout. La partie n'est pas gagnée. Il n'y a jamais de partie gagnée. Mais on sait que ça va aller. Il faut garder le moral. Je sais que c'est difficile d'être confiné. Il y a une bataille qui est en train de se jouer. Ce n'est pas la guerre. C'est une vraie bataille sanitaire. C'est une bataille sociale pour qu'on puisse tous vivre mieux après. C'est ça l'enjeu.
Et Patrick Pelloux, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'État, les autorités sanitaires gèrent bien cette épidémie ? Il communique beaucoup, mais est-ce qu'il la gère bien ?
Oui, je crois, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec l'état actuel du système sanitaire, etc. Je reviens pas sur tout ce que vous m'avez déjà permis de dire sur vos antennes, sur la situation catastrophique de l'hôpital. L'hôpital était à genoux et là on nous a demandé d'être debout pour sauver les malades et aider la France. On le fait, mais il faudra s'en rappeler après. C'est-à-dire qu'on ne nous ressort pas après les mesures économiques, qu'on n'a pas le temps. Il faudra réorienter tout ça. Pour l'instant, ce débat qui est politique et social, il faudra l'avoir après. Moi, j'ai confiance. Je trouve que le professeur Salomon, directeur général de la santé, fait bien son boulot. Je trouve que la direction générale de l'organisation des soins fait bien son boulot. Que les agences régionales de santé sont attentives, ils font bien leur boulot. Que le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, fait bien son taf. Et on est solidaires avec eux. Et ce qui permet à nous, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, manip radio, médecins, réanimateurs, toutes les disciplines, d'être vraiment concentrés pour sauver des vies. Et c'est ce qu'on fait. Et on le fait vraiment avec toute notre âme et toute notre humanité.
Et on vous en remercie, Patrick Pelloux. Merci beaucoup pour votre message encourageant ce soir. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir, médecin urgentiste, président de l'Union des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et puis, j'ai envie de vous dire bon courage et merci au nom de nos auditeurs.
Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.
18h24, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Vous écoutez Mathieu Charrier.
Alors à cette heure-ci, habituellement, vous le savez, c'est le journal des sports. Évidemment, il n'y en aura pas ce week-end, toutes les compétitions ayant été annulées ou reportées. Et l'on a choisi à la place de mettre en avant des initiatives de solidarité autour de cette lutte contre le coronavirus, des initiatives positives. Je suis donc en ligne maintenant avec Grégory Grelet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à la Banque de France. Vous venez de fonder le site enpremièreligne.fr. Déjà, expliquez-nous ce que c'est, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y proposer. Expliquez-nous.
Alors, c'est très facile. C'est une plateforme de mise en relation de personnes qui sont, comme le nom l'indique, en première ligne. On pense évidemment aux soignants, aux médecins, aux infirmières, mais aussi à tous ceux qui sont en première ligne aujourd'hui dans la crise que nous traversons. On élargit évidemment aux pompiers, aux ambulanciers, aux policiers, mais aussi aux messieurs qui remplit les étalages des rayons dans le Monoprix qui fait le lien entre le stock et le reste du magasin. La personne qui s'occupe de transporter dans le fret SNCF l'ensemble des denrées alimentaires pour continuer à alimenter les villes. Et tant de personnes qui sont justement en première ligne, qui ne peuvent pas arrêter de travailler, sinon le pays s'arrête et on aurait d'autres problèmes que ceux que nous avons aujourd'hui. Et donc pour ces personnes, on a décidé de créer cette plateforme de mise en relation pour deux choses les plus évidentes à court terme. C'est la garde d'enfants, parce que c'est vrai qu'à partir de jeudi dernier, lors de la décision du président de la République de fermer les écoles, il y a beaucoup d'enfants qui sont rentrés dans leur foyer. Et pour certaines personnes, s'organiser...
C'est-à-dire que moi, je peux proposer de les garder, leurs enfants,
exactement,
par exemple.
Exactement, vous pouvez proposer de les garder. Notamment, évidemment, vous avez compris, c'est plutôt pour les familles monoparentales, divorcées, veufs, etc. Ou alors... Les deux personnes sont essentielles, on peut penser à des couples de médecins, on a des exemples, et donc toute personne peut s'engager, dans une limite évidemment, plus de 18 ans, moins de 60 ans, pas dans les publics vulnérables, donc pas de tout ce qu'on a vu, les maladies qui créent des complications avec le Covid 2019, on essaie de les limiter.
Donc il y a la garde d'enfants, il y a quoi, je peux aller leur faire leurs courses, leur proposer peut-être des
appartements. C'est les courses et la garde d'enfants.
Courses et garde d'enfants.
C'est ça. Pour l'instant, c'est les courses et les gardes d'enfants, mais nous, ce que nous faisons, c'est une mise en relation, c'est très en amont de la rencontre. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a quelqu'un qui s'est déclaré comme étant volontaire et quelqu'un qui a un besoin dans le même code postal et qui sont proches l'un de l'autre, on envoie un mail, c'est très simple, les deux reçoivent le mail, et après, à partir de là, on leur envoie des consignes, mais ils s'organisent entre eux. Si les courses deviennent de la garde d'enfants, si les gardes d'enfants deviennent un autre bon plan, si c'est pour aller aider pour autre chose, aller chercher les médicaments, on a mis en relation deux personnes, une personne qui avait du temps et qui était volontaire, avec une personne qui n'avait pas de temps. C'est surtout ça qui est au centre de la logique de notre plateforme.
Cette nuit, vous avez passé, je crois, la barre des 50 000 volontaires déjà ?
Oui, c'est ça. Là, en ce moment même, on doit être à 55. Et c'est assez... Moi, j'aime bien comparer surtout avec le nombre de visiteurs qu'on a eu sur le site, qui est autour de 350-400 000. Ça veut dire qu'une personne sur 7 qui passe sur notre site, qui clique... Elle s'inscrit, une personne sur 7. C'est incroyable, ça veut dire que les gens, quand ils ont entendu parler de solidarité, que ça soit chez nous, que ça soit au Resto du Cœur, que ça soit au Don du Sang, que ça soit à la Croix-Rouge, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de faire quelque chose. Et on peut penser à beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui.
C'est gratuit, vous vous rémunérez
c'est
pas,
gratuit.
Vous ne collectez pas les données.
Non, c'est que du temps bénévole de notre part. On est trois copains, Titouan Galopin et Adrien Duguet. Et maintenant, c'est gratuit, ça le sera toujours. La plateforme disparaîtra quand le Covid aura été battu. On détruit toutes les données au fur et à mesure. Il n'y aura pas de proposition commerciale ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour sortir de cette crise par le haut.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'État ? Est-ce qu'ils vous ont proposé de vous aider ? On sait qu'ils veulent créer une plateforme de l'engagement. Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux ?
Oui, bien sûr, on a eu des échanges avec eux. Notamment, comme vous le dites, sur cette plateforme qu'ils sont en train de lancer, je crois, peut-être dans les heures qui viennent. C'est une plateforme qui va recenser des volontaires, mais notamment pour les missions un peu plus, justement, publiques, c'est-à-dire les missions non sanitaires dans les hôpitaux, pour répondre aux 15. Beaucoup de missions qui sont liées notamment aux services civiques. Et en effet, on s'est coordonné avec beaucoup d'autres associations sur ce volet pour savoir évidemment on va évidemment proposer à l'ensemble de nos volontaires de s'inscrire sur cette plateforme et voilà, il y a un écosystème qui est en train de se former vraiment entre l'ensemble des besoins des associations et les plateformes comme nous et d'autres personnes, etc., qui ont des contacts et qui peuvent justement relayer et faire le lien entre ceux qui veulent donner de leur temps et ceux qui en ont besoin.
On disait, vous, pour l'instant, c'est garde d'enfants et courses. Est-ce que vous avez d'autres idées pour élargir un petit peu le panel de ce qui pourrait être proposé sur votre site.
Oui, oui, on a d'autres idées. On va peut-être même lancer quelque chose ce week-end. C'est une réflexion qu'on avait au tout début. C'était notamment les courses pour les personnes âgées, isolées, en difficulté. On n'a pas lancé ça au début parce que on ne savait pas précisément comment faire des courses sans contact pour eux, parce que notre process maintenant de course est sans contact. Donc maintenant, vu qu'on a appris en fonctionnant avec la plateforme, on va probablement lancer cela. Donc ça veut dire que maintenant les volontaires qui sont inscrits vont pouvoir, en plus d'aider les premières lignes, pouvoir aider des personnes isolées à aller faire leurs courses et donc éviter d'aller se mettre en contact en difficulté. 90% du temps, ils n'ont pas de masque, à faire la queue dehors, etc. Et donc prendre des risques qui sont assez difficiles pour eux alors qu'ils ont 70, 75, 80, 85 ans.
Et donc je rappelle à nos auditeurs votre site, votre plateforme, c'est enpremièreligne.fr, tout attaché, en première ligne. Merci beaucoup Grégory Grelet d'avoir été avec nous ce soir.
Merci
pour cette initiative positive. Merci et bon courage, continuez cette belle initiative en tout cas, merci.
Merci, à bientôt.
Oui, on reste ensemble pour parler bien sûr de cette crise du coronavirus, on s'aérera aussi un petit peu la tête, je vous le promets. Mais d'abord, on va revenir sur la situation liée au Covid-19 dans les EHPAD. Hier, ces établissements qui accueillent les personnes âgées ont envoyé une lettre au ministre de la Santé, Olivier Véran, pour lui réclamer des masques. Ils disent redouter la mort de 100 000 résidents. Je suis en ligne ce soir avec Séverine Laboux, directrice du groupe hospitalier L'Os au Bourdin, qui comprend deux EHPAD et peut accueillir 205 résidents dans le Nord. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Alors quelle est la situation à l'heure où l'on se parle dans vos établissements, vous ?
Alors moi, dans les deux EHPAD que je dirige, nous n'avons pas encore, je touche du bois, de cas de Covid-19 suspectés ou avérés. Nous avons beaucoup de chance, puisque ça n'est pas le cas d'autres EHPAD en France. On commence à en entendre parler à Montpellier, dans le Doubs également. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé non plus de la situation des EHPAD dans l'Oise, mais il y a eu aussi une épidémie dans ces EHPAD et des décès, tout à fait.
Quand les EHPAD disent qu'ils craignent 100 000 morts parmi leurs résidents, ça vous paraît crédible comme chiffre, parce que ça fait peur ?
Alors, le chiffre peut être tout à fait crédible. Oui, il fait peur. Effectivement, si le Covid-19 rentre dans un EHPAD, c'est comme faire rentrer le loup dans la bergerie, puisque on sait tous aujourd'hui qu'il est très agressif, qu'il se propage extrêmement rapidement, plus que la grippe saisonnière. Et puis surtout, il est assez mal connu dans sa façon de s'impacter selon les personnes. Nous, on a découvert cette semaine, précisément par les médecins qui ont été durement éprouvé ces derniers jours à Montpellier dans le Doubs, que en plus les symptômes chez les personnes âgées peuvent passer plus inaperçus que pour le reste de la population. Ainsi, on a découvert que des personnes avec des troubles de désorientation un peu supérieurs à la normale, des chutes ou même des chutes à répétition et même des épisodes de diarrhée pouvaient être des signes avant-coureurs d'un début de Covid-19. Or, ces symptômes en EHPAD sont assez courants. Donc non seulement il peut être un loup dans la bergerie en EHPAD, mais en plus il arrive de façon insidieuse via des symptômes qui sont, je dirais, monnaie courante en EHPAD. Donc on est très très méfiant et effectivement on le craint énormément.
Vos personnels sont prêts? Alors on entend beaucoup dire qu'on manque de masques partout, notamment dans les EHPAD. Vous, est-ce qu'ils ont des masques? Est-ce qu'ils ont du gel hydroalcoolique? Est-ce que vous en demandez plus? Comment ça, où vous en êtes aujourd'hui?
Alors on a suffisamment en termes de gel hydroalcoolique. Par contre, au niveau des masques, aujourd'hui, je suis malheureusement dans l'obligation de refuser l'autorisation de l'utilisation des masques chirurgicaux, puisque nous n'en avons pas assez pour tenir au-delà de 3 jours. Alors comme on n'a pas de cas dans notre structure, je dirais que ça tombe bien, donc on n'a pas besoin de les utiliser, sauf que dès lors qu'il y aura un cas suspect, ça peut aller très vite. Il nous reste que 3000 masques par résidence, ça part en 3 jours. Et la problématique, c'est que les EHPAD ne sont pas identifiés au moment où je vous parle comme prioritaires pour les livraisons de masques qui viennent d'être débloqués par le gouvernement. Ce sont d'abord les établissements de santé en première ligne et évidemment les acteurs de ville tels les médecins traitants. Mais nous, les EHPAD, nous ne sommes pas prioritaire. Et d'ailleurs, ça fait déjà un petit moment qu'on commence à ne plus être livré. Car nous, des masques, on a l'habitude d'en avoir. C'est dans nos stocks de plans de sécurité et on les utilise généralement à chaque épisode de grippe saisonnière. Et nous, on vient justement de finir, on n'a pas encore totalement fini l'épisode de grippe saisonnière et nos stocks sont en souffrance. Donc là, nous, on est en difficulté. Au niveau de la solution hydroalcoolique, ça va, mais il y aura d'autres équipements aussi dans très peu de temps qui vont poser question. Typiquement, les gants, les surblouses. Et puis, j'ai envie de dire, comme tout à chacun, à un moment, tout ce qui va être de l'essentiel, comme l'alimentation, etc., ça va, tout cela va se poser à nous également.
Et que vous répondent les autorités quand vous leur dites on n'aura pas assez de masques? Ils vous disent quoi au niveau de les autorités régionales de santé, par exemple?
Bien, elles sont elles-mêmes désemparées. Elles font remonter au niveau national pour obtenir des masques. Mais là, s'il y a un problème de confection, de sociétés en capacité d'en produire en grand nombre et à nous livrer.
Comment vous faites, Séverine Labou, dans vos deux établissements, dans vos deux EHPAD aussi, pour maintenir le lien entre les résidents et leurs familles? On sait que les visites, aujourd'hui, elles sont interdites. Comment on fait? Est-ce qu'on fait de la visioconférence? Est-ce qu'on insiste pour les coups de téléphone? Ou est-ce que malheureusement, on laisse nos personnes âgées encore plus seules que d'habitude?
Non, alors effectivement, on a d'abord développé les échanges téléphoniques, puisque certains de nos résidents ne peuvent pas tenir par eux-mêmes un combiné de téléphone et encore moins taper un numéro ou même juste décrocher. Donc on a d'abord commencé par ça. Et puis très très rapidement, on a mis en place les visioconférences type Skype et ça marche très très bien. Ça permet effectivement de maintenir le lien et c'est essentiel pour nos aînés parce que le revers du confinement, c'est effectivement le risque de syndrome de glissement pour nos aînés. Même si nous on maintient les activités, les animations individuelles pour leur donner un peu de joie, on ne remplace jamais une famille. Ça, il faut être très clair. Donc on a besoin de ce lien à maintenir avec les proches. Et d'ailleurs je salue les professionnels soignants et non soignants parce que leur charge de travail ces derniers jours est incroyablement augmenté vu toutes les mesures barrières qui sont à prendre, mais il a fallu aussi s'organiser pour le Skype, prendre des rendez-vous, organiser les sessions et rester auprès des résidents pour les aider à manipuler les ordinateurs, puisque ça n'est pas encore une génération qui utilise facilement ce genre d'outils.
Et ça, vous êtes suffisamment équipé en ordinateur, en visioconférence, voilà, vous avez ce qu'il faut.
On en a pas mal. Après, on refusera pas des dons d'ordinateurs portables si on nous en envoie pour nous faciliter et multiplier les séances de Skype. Nous, par exemple, on a acheté en urgence et on a réussi à se faire livrer des types de tablettes numériques écran plat parce que c'est beaucoup plus facile à manier pour les professionnels et pour passer d'une chambre à une autre. Et donc, on refuserait pas des dons éventuels. Mais pour le moment, on arrive quand même à faire avec ce qu'on a.
Et est-ce que vous craignez aussi que peut-être, face à l'engorgement des hôpitaux, c'est déjà le cas dans certaines régions, ça arrive visiblement sur tout le pays, que vos personnes âgées, malades ou qui sont hospitalisées, soit vous soient renvoyées, soit qu'on vienne plus vous les chercher?
Oui, c'est le risque. Effectivement, il y aura des discussions entre les médecins pour savoir si un de nos résidents peut ou pas être envoyé à l'hôpital, si c'est pire pour lui d'aller à l'hôpital plutôt que de rester chez nous en confinement. Et nous, de notre côté, nous allons évidemment récupérer en retour d'hospitalisation nos résidents, alors soit pour une hospitalisation classique et ils reviennent tout simplement, soit il est possible qu'on nous demande pour désengorger les filières de soins, d'accueillir pour en termes de primo-accédants, des résidents qu'on ne connaît pas, qui ne sont bien sûr pas atteints a priori de Covid-19, mais pour les accueillir au plus vite dans une résidence parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à domicile. Donc ça, effectivement, c'est un sujet qui va se poser à nous très très vite et c'est aussi un vecteur de risque parce que les entrées et les sorties créent du risque pour l'entrée du virus au niveau de nos structures.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Séverine Labou. Vous dirigez le groupe hospitalier L'Eau Saubourdin dans la banlieue lilloise. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Merci.
Merci, au revoir.
La suite du Grand Journal du soir sur Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Mathieu Charrier.
Et on voulait aussi changer les idées dans cette interview découverte et parler d'un acteur qui fait partie de notre patrimoine culturel. Comment aurait-il joué le confinement à l'écran? Tiens d'ailleurs, je parle de Louis de Funès, puisque sort un livre au titre on ne peut plus clair, Louis de Funès de A à Z, c'est aux éditions Grund. Et vous en êtes l'auteur, Bertrand Dical, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alors, le livre est construit, je le disais, comme un dictionnaire, une sorte de dictionnaire amoureux en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va déplier, dérouler comme ça les pages avec les lettres et à chaque lettre, une occurrence en lien évidemment avec Louis de Funès. Évidemment, si on commence par ouvrir à la lettre A, on trouve notamment l'aile ou la cuisse.
Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. J'ai nommé.
J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît.
J'ai nommé Louis de Funès.
Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young.
Vous écrivez, Bertrand Dical, L'aile ou la cuisse, c'est pas uniquement un film comique. Pourquoi ?
Parce que c'est un film qui parle de la malbouffe. Le mot est né à cette époque-là, au milieu des années 70, parce que c'est quand même un moment où Louis de Funès, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois de sa carrière, rencontre l'actualité, mais là, à ce moment-là, pour lui, comme pour toute l'équipe de film, du film, pour le réalisateur, pour tout le monde, c'est un vrai combat. Et on l'a un peu oublié d'ailleurs aujourd'hui ce combat. Aujourd'hui on parle beaucoup du bio, on parle beaucoup du bien manger, des bons produits, des circuits courts, du véganisme, le cas échéant. Mais on a oublié qu'on a déjà perdu une bataille. Et cette bataille, elle a été perdue dans les années 70 quand les industriels sont entrés dans notre assiette. Quand les industriels, alors évidemment c'était Jacques Borel dont on parlait, qui était directement visé par ce film, un des premiers grands industriels de la nourriture et du repas à bon marché. Et c'était vraiment un film, ça paraît idiot hein, quand on parle de Louis de Funès de dire ça, mais c'est aussi un film militant pour un certain bien vivre et un bien manger à la française.
Et L'aile ou la cuisse qui aurait quand même attiré près de 6 millions de spectateurs en salle. Alors si on reste du côté de la lettre A dans votre livre, on arrive évidemment à argent.
Il est l'or, l'or de se réveiller. Mon seigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort.
Alors,
regardez sous le lit.
Puisque Bertrand Dical, Louis de Funès, c'est vrai qu'il avait la réputation, et encore dans l'imaginaire collectif, d'être très proche de ses sous. Et vous expliquez pourquoi, parce qu'il faut notamment comprendre d'où il vient.
Louis de Funès, il vient d'une famille déchue, comme on disait à l'époque. Hein. Sa mère venait de la très très grande bourgeoisie espagnole, avait fait un mariage d'amour, et comme souvent dans les mariages d'amour, elle avait déchu, parce que son mari, qui était très, un très bel homme avec de magnifiques moustaches, était aussi, du point de vue commercial, du point de vue professionnel, un vrai incapable. Et Louis de Funès a grandi dans la pauvreté, voire dans la misère. Et il a mis des années à gagner sa vie. Il faut bien réaliser, hein, de Funès a été sûr de pouvoir avoir dans ses poches, dans son portefeuille, dans son compte en banque, jusqu'à la fin du mois. Il a fallu qu'il attende d'avoir une quarantaine d'années pour être sûr qu'il avait de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Et c'est vraiment quand il avait 50 ans qu'il est devenu riche, qu'il est devenu une star.
Et l'acteur le mieux payé d'ailleurs.
Et l'acteur le mieux payé de France, le mieux payé d'Europe. Il n'y avait que les stars américaines, les Steve McQueen, qui étaient mieux payés que lui au moment de la fin de sa carrière. Donc c'était un homme qui touchait des cachets énormes, mais qui n'était pas non plus un très bon homme d'affaires. Et une des choses les plus tristes, allez, disons-le, les plus tristes de la carrière de Louis de Funès, c'est qu'il a toujours refusé d'être payé au pourcentage. Il a toujours refusé d'être producteur de ses films, ce qui fait qu'il touchait des cachets gigantesques. Faut pas oublier que le château de Clermont, un château avec 365 fenêtres, il l'a acheté avec le cachet d'un seul film. Un seul chèque, un seul film. Et il a acheté un château. magnifique. Mais en revanche, comme il n'était pas payé au pourcentage, il ne touchait rien sur les passages télé. Ses héritiers, ensuite, ses enfants, n'ont rien touché sur la fructification de sa carrière par les producteurs qui ont continué à diffuser, rediffuser, vendre, revendre, parce que peut-être était-il trop près de ses sous et ne voulait-il pas se lancer dans les affaires. Se lancer dans les affaires, signer des contrats avec des participations, des pourcentages, ça l'aurait peut-être rappelé son père qui a raté toutes ses belles affaires et il préférait un seul chèque par film.
Et on continue dans cette interview découverte de feuilleter votre livre, Louis de Funès de A à Z, Bertrand Dical. On en arrive évidemment aux aventures de Rabbi Jacob. Écrivez
écrivait Bertrand Dical que c'est un des films les plus politiques de Louis de Funès et qui est d'ailleurs sorti dans un contexte politique très particulier.
Ah bah oui, les aventures de Rabbi Jacob sortent au moment de la guerre de Yom Kippour, de la guerre qui oppose les nations arabes unies contre l'État d'Israël. Ce qui crée des tensions, évidemment, en France et partout dans le monde. Et le film sort dans ce contexte-là. Et c'est pas un film qui est uniquement un film comique. Encore une fois, et peut-être plus que jamais, c'est un film politique, c'est un film antiraciste. Ouvertement antiraciste, hein, qui est construit à la limite sur cette réplique-là, qui est Salomon, vous êtes juif. Tant pis, je vous garde. Et Gérard Oury, quand il construit le film, c'est ça qu'il a envie de faire dire à Louis de Funès. Il a envie d'attaquer de front le racisme, l'antisémitisme, et aussi de faire entendre une certaine parole tiers-mondiste. Il faut pas oublier qu'il y a aussi le personnage du révolutionnaire qui veut la démocratie dans son pays, qui veut que l'argent du pétrole aille à son peuple et pas uniquement aux puissances occidentales. Il y a tout un contexte politique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est certainement le seul film pour la promotion duquel Louis de Funès a prononcé des mots politiques. Alors, il n'a pas dit que tel camp avait raison, que tel autre avait tort. Non, non. Il a dit quelque chose qui est absolument bouleversant. Quand on lui parle d'antisémitisme, il dit que ben lui aussi, il avait des préjugés. Et que faire ce film avec son ami Gérard Oury qui était juif, qui avait dû quitter la France sous l'occupation pour sauver sa peau, ça l'a fait réfléchir. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, hein, en voyant cette interview de Louis de Funès à la télévision, en voyant sa petite mine quand il dit « oui, moi aussi, j'étais un peu… » Il dit pas le mot. Tout le monde comprend. Et c'est vraiment un moment d'une force incroyable. Et un certain nombre de critiques de cinéma diront, et il y a une phrase célèbre qui dit « on savait que de Funès savait nous faire rire ». On ne savait pas qu'il pouvait nous faire pleurer.
Et c'est toute la complexité de ce personnage qui fait maintenant partie de notre patrimoine culturel et qu'on a vraiment plaisir à redécouvrir avec votre livre Bertrand Dical, Louis de Funès de A à Z. Il y a plein d'occurrences, la critique aussi, vous expliquez comment la critique à l'époque n'aimait pas Louis de Funès et finalement quand on voit le succès qu'il connaît aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, aux éditions Grune, ce livre. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce soir, Bertrand Dical.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Il est 18h51 et on retrouve Mathieu Charrier pour la suite de ce grand journal du soir sur Europe 1.
Et à 19h, évidemment, nous ferons un point sur l'actualité du coronavirus. Mais comme tous les samedis à cette heure-là, c'est une chanson dans la tête consacrée aujourd'hui à un grand artiste français.
Comme dans les cinémas d'antan, je vois le monde en noir et blanc. Noir, les marchés truqués, des trafiquants de...
Bonsoir Fabien Lecoeur.
Bonsoir Mathieu.
Alors on aura évidemment reconnu Florent Pagny.
Bien sûr, Florent Pagny qui justement fête cette semaine déjà ses 32 ans de carrière car son premier single N'importe quoi était sorti le 21 mars 1988. Et il en est déjà, tenez-vous bien, à son 19e album studio qui s'intitule Aime la vie. Et donc son nouveau single, justement, dont on vient d'écouter l'extrait, Noir et Blanc, vient de paraître sur une musique, bien sûr, d'Alain Lanty.
Alors ce qu'il faut préciser, Fabien, c'est que pour Florent Pagny, le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, bien au contraire.
Ah, ça n'a pas été simple, ça je vous le confirme.
Pour bien comprendre le destin de Florent Pagny, Fabien, faut revenir à ses origines familiales.
Oui, ça n'a pas été simple pour lui, puisque pour bien comprendre justement le destin de Florent Pagny, comme vous le dites très justement, il faut remonter à ses origines familiales, car en effet, dans la famille Pagny, la chanson, on va dire, et le spectacle est une vraie passion. Voilà, ses grands-parents, d'abord en Bourgogne, créaient des comédies musicales dont sa grand-mère imaginait le scénario en utilisant tous les gens du village, en accentuant, bien sûr, on va dire, leurs caractéristiques. Et quant à la maman de Florent, Odile Pagny, que j'ai rencontrée d'ailleurs une fois, elle était secrétaire, mais son grand rêve était d'être chanteuse. Et c'est d'ailleurs une grande passionnée d'opérette qui, elle-même, chante très bien. Et à 20 ans, elle voulait monter à Paris, tenter sa chance, mais elle n'a pas pu. Alors c'est elle qui a initié Florent à la chanson et à l'opérette, puisque Florent Pagny m'a toujours confié qu'il connaît pratiquement toutes les chansons par cœur de Luis Mariano, en écoutant justement les disques de sa maman et en chantant tous les succès de l'époque.
Et il est très très jeune monté à Paris, Florent Pagny, Fabien.
Oui, c'est vrai, c'est en 1976. Florent n'a que 15 ans lorsqu'il quitte ses parents et la Haute-Savoie pour monter, en tout cas tenter sa chance à Paris, comme on disait. Avant de pouvoir réaliser ses rêves de chanson, il doit, pour survivre, exercer différents petits boulots comme babysitter, commis de restaurant, coursier, même barman. Et c'est justement derrière un bar que son destin va basculer. Nous sommes en 1980 et Florent Pagny est barman au Broad. Alors le Broad, c'est un bar branché situé rue de la Ferronnerie à Paris, dans le quartier des Halles. Et cet endroit, haut lieu des nuits parisiennes, est un repère des personnalités de la mode et du show business. Alors, un soir, un client, qui n'est autre que l'agent de cinéma Dominique Besnéard, vous le connaissez, aborde Florent et lui dit qu'il est à la recherche d'un jeune acteur pour jouer dans le film de Jean-Jacques Benex, vous savez, Diva. Ouais. Florent, emballé par ce rôle, dont on lui parle justement, Besnéard, insiste pour passer l'audition. Il se rend donc au casting, mais il ne sera hélas pas retenu. Et cette déception va en revanche lui donner des ailes et une furieuse envie d'obtenir d'autres rôles. Bien sûr, il sera secrètement encouragé par Dominique Besnéard et ainsi Florent Pagny démarre une carrière de comédien en 1982 dans, souvenez-vous, L'As des As, La Balance et puis Force à Gagne, entre autres.
Finalement, Fabien, c'est entre deux films qu'il va commencer à se mettre au piano et à la musique.
Exactement. Et mélange, Pagny mélangera piano, les quatre accords qu'il connaît par cœur et compose une mélodie assez efficace qu'il décide d'aller présenter au producteur Gérard Louvain, qui lui avait déjà proposé d'enregistrer un disque, 10 ans plus tôt, on va le dire. Hein. Et Gérard Louvain aime bien la mélodie que Pagny lui fait écouter et il le met en contact avec différents auteurs à la mode pour trouver un texte. Mais comme les premiers textes qui lui sont proposés ne lui conviennent absolument pas, c'est finalement avec Marion Vernoux, vous savez, Marion Vernoux, c'était la fille d'une directrice de casting et d'un décorateur de théâtre, que Florent va écrire en une nuit, tenez-vous bien, un manifeste contre les méfaits de la drogue intitulé N'importe quoi, en pensant à de nombreux proches justement victimes de ce fléau. Et le 45 tours sort chez Phonogramme au mois de mars 1988, ce fameux 21 mars, et se retrouve rapidement au top 50, où il reste, tenez-vous bien, il va rester 26 semaines, dont 8 à la première place.
Et c'est aussi à cette époque-là, Fabien, qu'apparaît une certaine Vanessa Paradis.
Exactement, Mathieu. En même temps que Florent Pagny se retrouve numéro 1 au top 50, une jeune fille d'à peine 15 ans commence elle aussi une belle carrière. Comme vous le dites, Mathieu, elle s'appelle Vanessa Paradis. Et son premier 45 tours, Joe le Taxi, est un immense tube. Alors Vanessa Paradis et Florent Pagny ont alors régulièrement les honneurs de la presse jeune et se croisent aussi régulièrement sur des plateaux de radio ou de télévision. Et c'est d'ailleurs au cours de l'émission Sacrée Soirée, délocalisée exceptionnellement à Disney World en Floride, que Florent et Vanessa apprennent à mieux se connaître. De retour à Paris, ils se revoient, se présentent leurs amis et passent des week-ends ensemble. Très vite, l'amitié se transforme en amour. Et au mois de décembre 1988, Vanessa et Florent emménagent dans un atelier d'artiste situé rue Cassini à Paris. Alors même si les deux chanteurs ne veulent pas médiatiser leur relation sentimentale, l'histoire est trop belle pour que la presse people ne s'en empare pas. Vanessa et Florent deviennent alors la cible privilégiée des paparazzis et de certains magazines qui s'enthousiasment pour ce couple star libre et insolent. Mais cette pression médiatique sur sa vie privée agace Florent Pagny et c'est pour cette raison qu'au moment d'écrire de nouvelles chansons pour son premier album, Florent imagine de le dire. Il écrit donc « Presque il roule », une chanson directe et sans langue de bois qui attaque certains journalistes qu'il qualifie de « rats », tout un programme.
Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer.
Et ce milieu des années 90 qui part s'installer, et on en a beaucoup entendu parler, en Patagonie.
Exactement, au milieu des années 90, il s'installe, d'abord il est devenu père de famille, et puis il s'installe au milieu de la Patagonie, dans le sud de l'Argentine, pays d'origine de sa femme, Azucena. Là-bas, loin du tumulte parisien, le chanteur rebelle réapprend à vivre, simplement,
totalement apaisé de ses démons de jeunesse et véritablement épanoui. Alors, de passage à Paris, au mois de février 1997, pour participer aux célèbres Victoires de la musique, au cours desquelles il interprète d'ailleurs « Emmenez-moi » devant un Charles Aznavour ému, Florent Pagny profite de ce retour en France pour rencontrer différents auteurs-compositeurs afin de leur demander des chansons pour son futur album. Et parmi eux, il y a un certain Pascal Obispo, qui triomphe lui par ailleurs avec la chanson Lucie. Et Pascal, qui apprécie beaucoup Florent Pagny, pour son côté animal, instinctif et direct, accepte sans hésiter la demande de Florent Pagny et se met très vite au travail avec son complice, l'auteur Lionel Florence, qu'on ne présente plus bien sûr. Et au départ, la chanson qu'il propose à Florent a pour titre « Savoir ». Elle deviendra la veille de l'enregistrement « Savoir aimer », car ça faisait, on va dire, beaucoup plus modeste, selon Florent Pagny.
Et le succès a suivi, une chanson dans la tête consacrée donc aux 32 ans de carrière déjà de Florent Pagny, c'est avec Fabien Lecoeuvre.
Aujourd'hui.
On vous retrouve demain, Fabien, vous nous parlerez de quoi ?
Oh, demain, on va parler des chansons qui ont été des énormes succès, mais qui au départ ont été refusées par certains artistes.
Ah, formidable, à demain Fabien.
Tout un programme à demain, merci Mathieu.
19h14, la suite de votre grand journal du soir avec Mathieu Charrier et à présent avec Julien de Normandie. Mathieu.
Oui, ministre chargé de la ville, bonsoir.
Bonsoir.
Première question assez simple, quelles mesures avez-vous prises pour aider les plus démunis et les SDF à passer cette crise du coronavirus ? On voit qu'en plus les températures sont en train de rechuter un petit peu. Qu'est-ce que vous avez mis en place à l'heure qu'il est ?
Bah écoutez, notre objectif, il est très clair, c'est de mettre à l'abri celles et ceux qui vivent malheureusement dehors. Et donc pour faire cette mise à l'abri massive, on a pris des mesures fortes. D'abord, on a dégagé des budgets, 50 millions d'euros, et s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin. Et puis deuxièmement, on a réquisitionné des hôtels. On a beaucoup travaillé avec les chaînes hôtelières pour pouvoir ouvrir des chambres un peu partout sur le territoire. Au moment où je vous parle, c'est plus de 2000 chambres d'hôtels qui ont été identifiées et qui sont en cours d'ouverture. Et ça n'est qu'un début, puisque nous continuons à travailler avec les chaînes d'hôtels pour pouvoir ouvrir de plus en plus de chambres. Et puis enfin...
Est-ce que vous avez des premiers cas de coronavirus chez des SDF ? Est-ce que vous avez des remontées dans ce sens-là ?
Alors, effectivement, il y a quelques cas, au moment où je vous parle, quelques dizaines de cas de personnes qui, malheureusement, ont contracté le Covid-19. Pour ces personnes, si jamais leur état de santé le nécessite, évidemment, ils sont pris en charge par l'hôpital. Et puis, vous avez certaines personnes, notamment des sans-domicile fixe, qui ont contracté le Covid-19, mais dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation. Et pour eux, on crée des centres dédiés. Ce sont 3 centres qui ont déjà ouvert, à Paris, dans le nord de la France, à Toulouse, qui permettront aux sans-domicile fixe, infectés par le Covid-19, mais ne nécessitant pas d'être hospitalisés, de pouvoir être suivis, se reposer dans ces centres d'abri spécifiques. C'est plus de 250 places que nous sommes en train d'ouvrir et nous avons identifié partout sur le territoire de tels centres. On pourra monter jusqu'à 2900 places si jamais cela est nécessaire.
On a vu à Lyon, Paris, Bayonne, des sans-abri qui ont été verbalisés pour non-respect du confinement. Alors est-ce que c'est un problème de mise en place de cette nouvelle règle ? Ça est réglé aujourd'hui ou est-ce que ça va continuer parce qu'on a un peu l'impression de marcher sur la tête ?
Non, effectivement, c'est évidemment pas la consigne. La consigne et la politique que j'indiquais, elle est très claire, c'est de mettre à l'abri les sans-domicile fixes. Et d'ailleurs, je note que le préfet du Rhône a été très clair sur l'effet supposé. Mais moi, je le redis, notre politique, elle est de mettre à l'abri les sans-domicile fixes, de pouvoir ouvrir des chambres d'hôtel, plus de 2000 d'ores et déjà, et de pouvoir continuer à le faire. Parce que vous savez, la rue, ça abîme, la rue, ça tue. Et dans ces périodes de confinement, plus que jamais, il faut mettre à l'abri au maximum ces personnes qui sont dans la difficulté.
Le ministre de la Santé, il y a quelques minutes, a déclaré que lundi allait se tenir un nouveau conseil scientifique pour savoir si le confinement allait être allongé. On sent quand même au sein du gouvernement cette petite musique qui monte. On commence à préparer les Français au fait que ça ne durera pas que 15 jours.
D'abord, la première chose, on le dit, on le redit, on le répète. Si vous voulez protéger ceux que vous aimez, si vous voulez prendre soin de vous, mais surtout aussi des autres, il faut absolument respecter ces règles de confinement. Et après, la question qui sera posée, c'est si ça n'est pas suffisant, si les règles déjà mises en place ne sont pas suffisantes, eh bien, il faudra aller plus loin. Mais vous savez, le gouvernement n'aura pas la main qui tremble. S'il faut aller plus loin pour protéger les Français, pour protéger leur santé, pour protéger celles et ceux qu'ils aiment, eh bien, effectivement, nous irons plus loin. Mais la priorité des priorités, au moment où je vous parle, c'est de respecter les consignes que nous donnons. C'est un sacrifice, ce confinement. On en a tous conscience. C'est un sacrifice de ne pas pouvoir côtoyer ceux qu'on aime. C'est un sacrifice de ne pas pouvoir se déplacer comme on le voudrait. Mais ce sacrifice, il est nécessaire pour sauver des vies. C'est ça le sens des consignes qu'on a passées et qu'il faut faire respecter. Je salue d'ailleurs les forces de l'ordre qui agissent depuis maintenant plusieurs jours pour les faire respecter.
Est-ce qu'il y a des mesures de prévues ? On sait que certains commerces auront des reports de loyer. Est-ce que pour les particuliers, vous envisagez une telle mesure ? Des particuliers qui peuvent être des indépendants, donc sans rentrée d'argent pendant toute la période de ce confinement. Est-ce qu'il va y avoir des mesures pour les aider à payer leur loyer, pour le repousser ? Est-ce que vous envisagez des choses autour de cette question-là ?
Les mesures qui sont prises pour les entreprises sur les loyers, elles s'appliquent aussi bien évidemment aux indépendants, aux micro-entreprises, aux petites entreprises, c'est-à-dire toutes ces organisations de commerce.
Moi, je parle pour les loyers des particuliers.
Hein. Oui, mais vous évoquiez les indépendants. Donc pour eux, pour toutes ces personnes-là, il y a un principe assez simple qui s'est imposé, c'est qu'ils n'ont pas de ressources. Donc quand vous n'avez pas de ressources, il faut qu'on puisse faire en sorte que vous n'ayez pas de dépenses en face. Après, pour les particuliers, pour celles et ceux qui habitent dans leur logement, non, il faut continuer à payer son loyer. Pourquoi ? Parce que la logique a été là d'apporter les revenus quand vous n'aviez pas de revenus. Typiquement, vous êtes dans une entreprise, l'entreprise n'a plus de boulot, ferme, à ce moment-là, on vous donne le chômage partiel. Typiquement, vous ne pouvez pas aller bosser parce que vous avez des enfants chez vous, à ce moment-là, vous avez un dispositif particulier, par exemple via l'assurance maladie, qui prend en charge une grande partie de votre salaire. Et donc la logique qui a été la nôtre, c'est de dire, on se substitue à votre rentrée d'argent, on vous donne ces aides nécessaires. Mais donc, dans ce cas, il faut effectivement continuer à payer son loyer.
Julien de Normandie, on sait que la situation du logement en France était tendue avant la crise du coronavirus. On voit des chantiers qui sont à l'arrêt aujourd'hui parce que les entreprises ne peuvent plus travailler. Est-ce qu'on ne craint pas, lorsque le confinement va être levé, lorsque la vie va reprendre, que cette crise du logement s'aggrave encore plus, que les loyers augmentent encore plus, que comment vous envisagez la suite ?
C'est évidemment une préoccupation. Et je voudrais saluer, parce que il y a quelques minutes, nous sommes tombés d'accord avec les principales fédérations pour que les chantiers puissent continuer. Vous avez pu voir, il y a eu tout un débat ces derniers jours pour savoir dans quelles conditions les chantiers peuvent perdurer. Alors ces chantiers sont nécessaires pour construire de nouveaux logements, mais enfin ils sont nécessaires aussi dans la période pour pouvoir prendre soin des logements existants, quand vous avez une fuite d'eau, quand vous avez des dégâts, quand vous avez des réparations à faire. Et donc nous sommes convenus avec les fédérations des professionnels, la fédération du bâtiment, la fédération des travaux publics, la fédération des artisans, nous sommes convenus d'une méthode pour permettre la reprise de ces chantiers. C'est concrètement un guide des bonnes pratiques sanitaires que nous sommes en train de finaliser pour assurer la reprise des chantiers dans un cadre sécurisé. La sécurité des travailleurs est évidemment indispensable.
Ça peut parfois donner un peu l'impression aussi qu'on dit, il faut rester confiné, mais ceux qui font tourner l'économie, allez bosser et continuer à travailler, quitte peut-être à mettre en danger votre santé. Vous comprenez parfois cette impression que ça donne, ces mesures ?
Je comprends. Et c'est très important d'expliquer ce que nous avons dit et ce que nous mettons en place. Qu'est-ce que nous mettons en place ? Nous mettons en place une consigne très claire. Il faut rester chez soi. Mais il faut rester chez soi, sauf pour évidemment aller se soigner, se nourrir, mais aussi pour aller travailler quand vous n'avez pas la possibilité de télétravailler. Et quand l'entreprise vous donne des gages de sécurité pour vous permettre de travailler. Et pourquoi on dit qu'il faut que le travail continue, que l'activité économique, que l'activité sociale aussi, je pense à toutes les associations, elle puisse continuer ? Tout simplement parce qu'un pays, pour vivre, il a besoin d'une activité économique et sociale. Il a besoin de faire en sorte que celles et ceux qui travaillent puissent continuer à le faire. Si jamais votre pays est à l'arrêt total, à ce moment-là, c'est toute la chaîne qui est à l'arrêt. Et la chaîne, à la fin, c'est ce qui vous permet d'avoir de quoi vous nourrir dans les supermarchés. C'est ce qui vous permet d'avoir des matériels de protection dans des cartons qui sont livrés aux hôpitaux. C'est ce qui vous permet d'avoir des personnes qui viennent chez vous quand vous avez des dégâts et qu'il faut absolument les réparer. Et donc la consigne, elle est très claire. Il faut rester chez soi, sauf quand on va se soigner, quand on va se nourrir ou quand on va travailler, parce qu'on ne peut pas télétravailler et que les consignes de sécurité sont clairement établies et assurées. C'est ça ce que nous disons aux Français, et c'est très important effectivement de bien l'expliquer.
Olivier Véran, votre collègue du gouvernement, ministre de la Santé, disait cet après-midi qu'une fois ce confinement levé, il allait probablement falloir, comme le demande d'ailleurs l'OMS, généraliser les tests. Est-ce que sur les tests, on n'en a pas fait assez? Est-ce qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui?
Vous savez, c'est toujours très facile déjà de se dire peut-être qu'il aurait fallu faire beaucoup de choses en mieux. Moi, j'attire votre attention et l'attention collégiale sur une chose, c'est qu'on est dans une situation avec des éléments qui sont aujourd'hui devant nous. C'est le cas des tests, c'est le cas des masques qui occupent aussi beaucoup les discussions aujourd'hui. Le fait est que jusqu'à présent, par exemple les masques, les réserves stratégiques de l'État, depuis 2011, elles n'ont cessé de décroître. C'est aujourd'hui, quand on voit la situation, ça a été des mauvaises décisions qui ont été prises par le passé et qui n'ont jamais été revisitées. C'est fort dommage. Mais enfin, au moment où je vous parle, on est dans une situation où il nous faut faire face à ce à quoi on a de disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas assez de masques, donc on est en train de les produire. On est en train d'en acheter un peu partout à travers la planète. C'est de la même chose sur les tests. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va nous falloir revoir. Mais pour l'instant, la question, c'est la gestion de l'urgence. Et je crois que vraiment tout le monde en a conscience. On est sur le pont, l'État, les collectivités locales, les associations, les professionnels, pour, dans le contexte actuel, pouvoir protéger au maximum l'ensemble des Français.
Merci beaucoup, Julien Normandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Et jusqu'à 20h, vous écoutez Mathieu Charrier sur Europe 1.
Et voici l'écho de la planète, teinté évidemment de la crise sanitaire du coronavirus cette semaine. C'est présenté toujours par Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. À la une, il y a toujours de la pollution malgré les mesures de confinement en France. Face à la pénurie, faut-il fabriquer un masque soi-même? Et parmi les initiatives solidaires qui fleurissent, pourquoi ne pas donner vos tickets restaurants?
Alors, on a vu une baisse d'un quart des émissions de CO2 en Chine après quelques semaines de confinement, idem en Italie. Mais pour l'instant, Virginie, ça ne se produit pas vraiment en France.
Eh bien non, l'air effectivement reste assez pollué, notamment en Île-de-France, malgré l'arrêt du trafic routier et de certaines usines, des bureaux, etc. Indice de pollution élevé même aux oxydes d'azote. Karine Léger, directrice d'Air Paris, nous explique pourquoi.
Pollution le long du trafic baisse, bien évidemment. Néanmoins, on a des circonstances météorologiques un peu particulières qui conduisent tous les ans à une augmentation de la pollution liée aux oxydes d'azote, alors provenant pas nécessairement du trafic, mais plutôt du chauffage, de l'agriculture. Et ces conditions météorologiques donnent lieu à des particules. Et donc, c'est pour ça que la pollution ne baisse pas. Néanmoins, si on avait eu du trafic en plus, elle aurait vraiment monté de façon beaucoup plus importante et on aurait pu avoir un épisode de pollution.
Voilà, l'agriculture pollue notamment à cette période de l'année avec les engrais et les excréments d'animaux, c'est la cause d'environ la moitié de la pollution de l'air. Donc les courbes restent hautes, mais on échappe, vous l'avez entendu, à un pic de pollution de sortie d'hiver. Et dans les prochains jours, la qualité de l'air devrait s'améliorer nettement selon les relevés. D'ailleurs, cette crise sanitaire ne fait baisser que temporairement les émissions mondiales de CO2. Si on se réfère à la crise économique de 2008, les usines étaient reparties de plus belle partout dans le monde avec une hausse de la pollution dans les mois suivants. Et en ce moment, je vous signale que 35 députés de différents partis viennent de former un groupe à l'initiative de Mathieu Orphelin, élu du Maine-et-Loire. Ils anticipent déjà la sortie de confinement et proposent que nous gardions certaines bonnes habitudes en faveur du climat, de la santé et de la biodiversité. Ils sont en train de rédiger un amendement à la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. C'est le moment de nous remettre sur les rails pour atteindre, pour de vrai, la neutralité carbone d'ici 2050 avec des réformes et des budgets adéquats.
Alors également à la une, cette question Virginie, la pénurie de masques doit-elle nous conduire à fabriquer notre propre masque en tissu?
Alors d'abord une précision Mathieu, il n'est pas question de fabriquer des masques en tissu pour les personnels soignants ou pour les malades du Covid-19. Ça n'est pas du tout adapté pour eux. Ils ont besoin de matériel aux normes de sécurité très strictes. La question là, c'est plutôt, puisque les particuliers ne peuvent pas se procurer de masques en ce moment, est-ce qu'il faut les faire soi-même? D'ailleurs, les autorités répètent que ça n'est pas utile. Certains médecins sèment le doute, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Bref, est-ce qu'un masque fait soi-même en tissu, est-ce que c'est mieux que rien? Alors pour l'instant, c'est ça la question. On n'a pas beaucoup de données sur l'efficacité ou non d'un masque en tissu, seulement quelques études assez contradictoires. C'est complètement inefficace, disent beaucoup d'infectiologues, parce que le coton ou le synthétique, c'est tissé beaucoup trop large. Un masque doit arrêter des micro-gouttelettes de 5 à 150 millièmes de millimètre. Mais une étude parue en 2008 dans la revue scientifique PLOS ONE comparait des masques FFP2 les plus robustes, des masques chirurgicaux et des masques en tissu, et concluait que les les trois réduisaient l'exposition au virus en conditions de laboratoire. Ce sont des aérosols, vous savez, qu'on charge d'un peu de virus comme des sprays, et ensuite on regarde si on le retrouve sur les masques. Donc, si on observe ces différentes études, eh bien, on comprend qu'un masque en tissu, c'est le dernier recours, c'est mieux que rien, et certains patients qui reçoivent un peu de charge virale, quelques gouttelettes avec ces masques, eh bien, commencent même à développer une immunité efficace, selon des chercheurs britanniques.
Et Virginie, voici maintenant quelques brillantes idées solidaires à partager.
Et oui, en ce moment, personne n'utilise plus ces tickets restaurants. Vous n'allez pas me dire le contraire, Mathieu, puisqu'on
j'en
est tous, voilà, d'une part, et puis ceux qui en ont sont à la maison. En revanche, il y en a qui en auraient bien besoin, ce sont les sans-abri, oui. Puisque vous savez que les Restos du Cœur ne peuvent plus distribuer de repas en ce moment. Le SAMU Social lance un appel aux dons, alors aux particuliers et aux entreprises. Alain Christnacht, président du SAMU Social de Paris.
Les circuits d'approvisionnement qui fonctionnaient avec des distributions alimentaires à partir de volontaires sont souvent en panne. Donc nous, on veut leur distribuer des tickets restaurants qui leur permettront d'aller dans les épiceries et de se nourrir. On en a reçu 20 000 d'une banque, hein, la BNP. On a besoin dans un premier temps de 100 000 tickets.
Voilà, 100 000 tickets resto, hein, c'est l'objectif pour permettre aux sans-abri de se nourrir le mieux possible le temps que durera cette crise. Et puis je relaie un appel de chercheurs qui travaillent dans des laboratoires aux quatre coins de la France. Si comme eux, vous avez dans vos labos trois choses, des masques, des gants ou de l'éthanol qui sert à fabriquer du gel hydroalcoolique, envoyez-le aux médecins et aux infirmières. Pour ça, le plus efficace, c'est de contacter votre agence régionale de santé qui dispatchera ou le CHU le plus proche.
Et voici maintenant le conseil de votre copine Catherine.
Oui, pour Catherine, pas question qu'Amazon sorte grand gagnant de cette phase de confinement. C'est le moment de penser au commerce de proximité, même via Internet. Alors évidemment, elle a déniché des perles. Par exemple, si vous avez besoin d'un livre, il y en a 1 300 000 qui sont stockés dans un grand entrepôt aux portes de Paris. Ce sont des livres d'occasion en très bon état, donc bien moins chers que les grandes plateformes. L'adresse pour commander, c'est recyclivre.com, recyclivre.com. Et la livraison se fait évidemment dans toute la France. Voilà pour le conseil spécial confinement de Catherine Margne.
Et voilà pour l'écho de la planète, signé Virginie Salmen comme tous les samedis. Merci Virginie, à la semaine prochaine.
Bonsoir.
Et c'est l'heure maintenant de l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Frédéric Dabi qui est avec nous comme chaque samedi sur Europe 1. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Et vous vouliez d'abord revenir sur le premier tour des élections municipales. Alors c'était dimanche dernier, ça nous paraît très très loin avec tout ce qui s'est passé entre temps. Mais voilà, c'était un scrutin inédit dans ce contexte du coronavirus. Ça a été un peu l'élection de la peur.
Oui, tout à fait. C'est l'élection de la peur. C'est un scrutin particulièrement inédit avec une campagne stoppée qui a été percutée comme jamais par un événement extérieur au scrutin. Hein. Ce qui se passe dans les derniers jours, la montée en puissance de la campagne a été phagocyté par l'inquiétude à l'égard de cette épidémie, une inquiétude jamais vue qui dépasse 80%. Et le résultat, on l'a vu, c'est une abstention inouïe, hein. 25 millions d'abstentionnistes, une abstention qui fait des abstentionnistes le premier parti de France, 19 points de plus par rapport à 2014, alors qu'on sait que traditionnellement, les municipales mobilisent toujours les Français, c'est le scrutin de la proximité, c'est le scrutin qui célèbre la confiance des Français à l'égard de leurs élus.
Est-ce qu'on sait, Frédéric, qui sont ceux qui se sont abstenus? Quelle partie de la population s'est le plus abstenue? Est-ce que ce sont les personnes âgées qui avaient peur du coronavirus? Est-ce que c'est réparti?
Oui, c'est particulièrement intéressant. Donc, une rupture totale avec les municipales précédentes, mais deux segments, deux populations qui s'est particulièrement abstenues. D'abord, les catégories qui sont traditionnellement abstentionnistes, hein, les jeunes, les catégories populaires, hein, 70% des moins de 25 ans ne sont pas allés voter, mais également, et c'est ça qui est nouveau, qui fait de ce scrutin un scrutin inédit, des segments de population, des catégories plutôt civiques, plutôt votantes. 50% des plus de 65 ans, des personnes âgées, ne sont pas allées voter. Une personne sur deux issue des cadres supérieurs et des professions libérales ne sont pas allées voter. Donc deux populations qui se sont unies dans un non-vote. Et la première raison invoquée, issue de notre sondage jour du vote IFOP fiducial, c'était « je ne suis pas allé voter parce que le coronavirus m'inquiète ». C'est en cela qu'on est sur une rupture totale par rapport au scrutin précédent.
Et ce qui est marquant quand même, Frédéric, quand on regarde par rapport justement aux résultats des précédentes élections, c'est que c'est assez cohérent finalement avec même les sondages qui étaient menés avant le scrutin. C'est-à-dire que cette abstention n'a pas tout bouleversé.
Voilà, c'est pour moi un point central. On a eu tendance à oublier ce scrutin, à l'escamoter, l'enjamber. Le second tour aura peut-être lieu au mois de juin. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les résultats enregistrés au premier tour, malgré cette abstention massive, sont plutôt en continuité à la fois avec les scrutins municipaux précédents et, petite publicité IFOP si je puis dire, en ligne globalement avec les sondages menés avant le scrutin, avec des sortants conforté, c'est le premier enseignement qu'on avait vu tout au long de la campagne. On sait que la règle pour tout scrutin municipal, c'est qu'il n'y a pas de dégagisme et de reconduction des équipes sortantes. Clairement, le 15 mars, les Français ont amplifié le mouvement de prime aux sortants. Tout se passe comme si ils ont, par leur vote, opéré un réflexe légitimiste qui a profité aux sortants. Quand on est allé voter, on a soutenu le sortant plus qu'on a été sur un vote contestataire.
Et on a soutenu les Républicains, le Parti Socialiste, il y a une espèce de retour de cet ancien monde ou de ceux qui sont considérés comme faisant partie de l'ancien monde.
Oui, tout ça aussi c'est en cohérence avec les enquêtes préélectorales d'avant le 15 mars. C'est une victoire de l'ancien monde. On l'a vu à Reims, à Troyes, à Tourcoing, à Boulogne-sur-Mer ou à Dunkerque, j'en passe. L'ancien monde, les élus locaux socialistes issus des Républicains se sont plutôt très bien défendus et ont été en situation de gagner, voire l'ont emporté dès le premier tour. A contrario, ce scrutin, c'est une défaite assez lourde pour La République En Marche, qui est en position de l'emporter dans quasiment aucune ville.
Il y a aussi eu la percée des Verts qui s'est confirmée. Alors ça se confirme d'année en année, d'élection en élection, mais là, sont bien placés pour même prendre des villes.
Oui, là aussi, c'est en continuité avec les sondages faits avant le vote. En continuité, c'est la première fois avec les élections européennes. Traditionnellement, les enseignements issus des élections européennes sont sans lendemain. Là, ça n'a pas été le cas. On a observé une percée historique pour les Verts, notamment dans les communes où le maire sortant ne se représentait pas. À Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux. A contrario, la gauche socialiste a plutôt bien résisté face à la poussée des Verts, notamment à Paris avec un très bon score pour Anne Hidalgo et à Lille avec Martine Aubry. Tout ça montre que ce scrutin, même s'il a été exceptionnel du fait de cette abstention massive, n'a pas changé grand-chose s'agissant des principaux enseignements. Les élections municipales en France, c'est l'élection de la stabilité où le dégagisme est rare et la règle est plutôt de reconduire les sortants. Les conditions exceptionnelles de tenue de cette élection ont exacerbé, ont amplifié ce mouvement.
Alors ce que l'on note, Frédéric, si on en revient à notre crise du coronavirus, c'est que cette crise finalement révèle à la fois le meilleur et le pire de l'âme humaine.
Oui, c'est tout à fait cela, le meilleur et le pire. Le pire quand on a vu des comportements assez ignobles comme des vols de masques, des comportements empreints d'égoïsme avec le respect insuffisant des gestes barrières, l'inconscience avec cet exode vers des lieux de villégiature, mais également au-delà de ces comportements absolument terribles, cet épisode révèle ce que l'humanité a de plus beau. Notamment, bien sûr, à 20h, lorsque depuis maintenant plusieurs jours, les citoyens, à leurs fenêtres, leurs portes ou leurs balcons, applaudissent les personnels soignants, le meilleur et le pire. Et tout ça m'incite à avoir deux réflexions. D'abord, les soignants, il faut les entendre au sens large. Il y a bien sûr les médecins, les urgentistes, les personnes en milieu hospitalier, mais également la médecine de ville, les infirmiers, les pharmaciens qu'on oublie trop souvent, qui reçoivent sans rendez-vous chaque jour 5 millions de personnes. Et en fait, je reprendrai un terme de Christophe Girard qui a été popularisé sur Twitter ce matin. Ces soignants sont des en-soignants, car ces personnes soignent et en même temps nous enseignent et nous transmettent des valeurs comme le don de soi, le courage, l'abnégation, la prise de risque pour autrui. Clairement, on va beaucoup apprendre de cette crise qui, malheureusement, va durer longtemps.
Oui, ces soignants qu'il faudra pas oublier à la fin de la crise. Ça fait des semaines et des mois qu'ils appelaient au secours et que pas grand monde ne les écoutait. Merci en tout cas, Frédéric Lloyd, de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. C'est tous les samedis dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Merci et à la semaine prochaine, Frédéric.
Merci, à la semaine prochaine.
Vous êtes bien sur Europe 1 avec Mathieu Charrier pour le Grand Journal du Soir. 19h38, c'est maintenant l'heure de retrouver notre rendez-vous culinaire dans l'ombre des grands chefs.
En cuisine, le meilleur ingrédient, c'est l'authenticité. Dans l'ombre des grands chefs, avec les fromages Hermitage.
Avec notre reporter Pierre Herbulot pour une chronique un petit peu particulière ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Mathieu, une chronique un peu spéciale aujourd'hui, vous vous en doutez, je ne suis pas dans l'ombre d'un grand chef, confinement oblige, et puis de toute façon, les restaurants sont fermés, mais ça ne doit pas nous empêcher de cuisiner, au contraire, on a le temps, je vais donc relever le défi, chez moi, depuis ma cuisine, de réaliser pour vous une recette de chef. Et pour la première ce soir, on va faire très fort, je vous propose le poulet farci de citron, que j'ai trouvé dans le livre Cuisine de Stéphanie Lequelec, et pour l'accompagner, la célébrissime purée de Joël Robuchon avec un peu de lait et beaucoup, beaucoup de beurre. Une purée très gourmande. Demain, c'est dimanche, on se fait plaisir. Alors, pour le poulet farci de citron, j'ai besoin d'un poulet fermier. Ce qu'on va faire,
c'est qu'on va commencer par garnir, farcir notre volaille. On y met le citron coupé en quatre, du thym frais, quelques gousses d'ail en chemise, du sel et du poivre. Dernière étape, pour éviter que la viande soit sèche, on va la badigeonner assez généreusement d'huile d'olive, ce qui va permettre à notre volaille de rester bien moelleuse, bien fondante. Voilà, donc le poulet est au four, on va pouvoir se mettre tout de suite sur les pommes de terre. Alors, une casserole avec de l'eau. Ce qui est très important, c'est qu'il faut garder la peau pendant la cuisson, ça va protéger la chair des pommes de terre. Donc je les lave et je les mets en cuisson. Alors, ça fait 20 minutes, on va couper la ventilation. Hop. Vous vous souvenez qu'on a laissé la peau tout à l'heure. Et ben voilà, la partie difficile, c'est qu'il faut l'enlever maintenant, cette peau à chaud. Voilà, donc on a épluché les pommes de terre, maintenant il faut les passer au moulin à légumes. Donc là, on débarrasse notre pulpe de pommes de terre, ça ressemble en fait à du gruyère râpé, hein, dans une casserole. Alors en attendant, on va mettre notre lait à chauffer. Quand on a bien détendu la pulpe de pommes de terre, on peut commencer à ajouter des dés de beurre froid. Et on incorpore comme ça, petit à petit, avant de mettre le lait chaud. Pour un kilo, c'est 250 grammes, hein, ça fait un quart. C'est ça qui est bon à la fin. Dès qu'elle commence à être bien souple, on va pouvoir la travailler au fouet. Ça fait les bras, mais bon, ce qu'on dépense là, on va le gagner au centuple après avec le beurre à l'intérieur. Donc là, on met le lait pas en une fois, hein, petit à petit, et on mélange doucement. On entend que ça fait pas le même bruit que tout à l'heure, là, quand on a rajouté le lait. Elle est beaucoup plus onctueuse. Dernière étape, on passe la purée au tamis. Voilà, on a la petite purée qui est prête. On va aller chercher notre poulet rôti farci au citron, qui est bien doré, qui chante rien que pour vous. Une petite chanson. Ça sent le citron, ça sent le thym, ça sent l'ail, ça sent le poulet rôti du dimanche. C'est incroyable. Il n'y a plus qu'à goûter.
C'est délicieux.
On a vraiment une volaille qui a été parfumée tout au long de la cuisson, à la fois par le citron, c'est le premier goût qui arrive, très acide, et puis ensuite on a l'ail confit comme ça à l'intérieur du poulet et le thym. Je vais prendre un peu de purée pour aller avec. Bon là là. Comme dirait Philippe Conticini, c'est un gros câlin. Elle est fondante, elle est soyeuse. C'est un peu facile de dire que c'est délicieux en goûtant moi-même. Donc, comme on est confiné, moi je suis accompagné de Victoria, qui est ma chérie. Bonjour Victoria.
Bonjour.
Ça va, c'est pas trop beurré?
Bah, moi j'adore, mais bon, heureusement qu'on a un vélo d'appartement pour éliminer après, parce que sinon ça va pas le faire.
Et la volaille?
Ça fait penser au tagine qui cuit avec le citron, le poulet. Ça a vraiment ce goût-là. J'aime beaucoup, c'est pas sec du tout.
Bon, c'est une réussite.
Une réussite.
Garantie sans trucage, je vous l'assure. Le poulet au citron de Stéphanie Ukelec et la purée de Monsieur Robuchon. Je vais me permettre de conclure avec l'une de ses maximes. Le meilleur est souvent le plus simple. Et bon appétit, bien sûr.
Une recette bien appétissante. Merci en tout cas à Victoria et à Pierre Herbulot.
C'était dans l'ombre des grands chefs avec les fromages Hermitage pour des moments conviviaux en famille ou entre amis. Choisissez des fromages authentiques avec une vraie personnalité. Prenez l'air. Prenez l'Hermitage.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, mais c'est avec vous Mathieu Charrier, toujours.
Et cette question maintenant, comment tenir le coup pendant ce confinement? Alors il y a la cuisine, effectivement, on vient d'en parler, mais quel geste simple adopter? Comment structurer ces journées? On est en ligne ce soir avec le professeur Michel Lejoyeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Alors première question assez simple, professeur, et assez bête en même temps, mais je l'assume, combien de temps on peut tenir confiné comme ça?
On n'a évidemment pas de réponse, puisqu'on n'a pas d'antécédent, ce n'est jamais arrivé. Les quelques données qu'on a, c'est que plus le confinement dure, plus il est stressant, mais plus aussi il va mobiliser nos capacités d'adaptation. Donc il n'y a aucun chiffre scientifique vous permettant de dire au-delà de tel jour, ça va être catastrophique, mais c'est un défi tout à fait nouveau.
Est-ce qu'il y a des petites astuces simples pour tenir? Par exemple, est-ce qu'il faut se faire un planning, se fixer des objectifs pour chaque journée, pour chaque week-end?
Alors, je crois qu'au-delà, bien sûr, chacun va trouver ses petites astuces et sa petite manière de s'en sortir. Mais vous savez, j'ai envie de m'appuyer dans ces moments difficiles sur ce qui a été publié récemment, qui vient d'être publié cette semaine dans le Lancet, et qui nous donne un tout petit peu ce qui fait la différence entre, si j'ose dire, un bon et un mauvais confinement. C'est-à-dire, quelles sont les situations, les expériences qui vont nous aider à ce que le confinement soit bon. Le premier, c'est de ne pas s'ennuyer. Tout ce qui nous désennuie, et quand on écoute votre radio, évidemment, on ne s'ennuie pas,
va
va être important. Hein. L'idée n'est pas de compter les heures, de compter les minutes, de compter les grains de riz, enfin que sais-je, de s'ennuyer. Je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, et là encore votre radio est importante, il faut recevoir pendant le confinement ce que nos collègues anglais du Lancet appellent une information adéquate, c'est-à-dire des informations justes. Hein, il ne faut pas commencer à se précipiter sur Internet, sur toutes les fake news, à aller se construire sa propre connaissance ou des durées de confinement ou du virus. On est, le président l'a dit, dans une situation qui est une situation de réaction de guerre. Autant prendre les données les plus validées.
On a l'impression aussi qu'il ne faut peut-être pas rester toute la journée à écouter les infos ou devant les chaînes d'infos en continu, ce qui est très angoissant. Est-ce que c'est un élément important aussi de savoir déconnecter de l'actualité?
Bien sûr, à la fois déconnecter et connecter. Il serait absurde de ne pas vouloir se connecter aussi très régulièrement pour connaître l'évolution d'une situation qui bouleverse tant notre vie quotidienne. Une des choses qui est importante aussi, pardon, c'est le sens qu'on peut donner à cette situation. Vous voyez, dans tous les stress de notre vie, moi je le vois aux urgences sur des choses très simples, comme par exemple un accident, quand c'est un accident individuel, par exemple un accident domestique, hein, vous glissez, vous tombez, vous allez être beaucoup plus traumatisé que quand c'est un accident collectif. Là, on fait tous partie, toute la planète fait partie de quelque chose qui est extraordinairement grave, mais extraordinairement collectif et sur lequel nous n'avons aucune raison de nous faire des reproches collectivement. Donc ce côté, on participe tous à une grande aventure, évidemment tragique, qu'on n'aurait évidemment pas voulu connaître, va aussi être un moyen de donner un sens un petit peu différent à cette situation.
Est-ce qu'il faut, on a beaucoup lu, notamment pour ceux qui télétravaillent, dans les conseils, il faut s'habiller, prendre sa douche, mettre ses chaussures pour aller dans sa chambre télétravailler. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il faut continuer à garder presque une routine traditionnelle, même si on reste chez soi?
Je pense qu'il est important, en tout cas, de rythmer les journées. On ne va pas être dans une espèce de temps indistinct entre le sommeil, la grasse matinée, un vague éveil. Donc tout ce qui va rythmer les journées, tout ce qui va nous donner la conscience de l'écoulement du temps, hein, avec des rituels, hein, des rituels de repas, des rituels de rencontres avec les autres, je pense que ça c'est très important. Isolement physique ne veut pas dire isolement social. On va prendre des rendez-vous. Moi, je vois par exemple, j'anime une équipe hospitalière à laquelle je donne des rendez-vous extrêmement réguliers, quotidiens, où on se rencontre par téléphone, par tous les moyens que permet la technologie. Donc, nous devons réinventer des rituels et garder les rituels qui nous ont structurés, comme par exemple celui de s'habiller. Il n'y aura rien de pire que d'être effectivement en pyjama toute la journée, pas douché, dans un état comme ça, léthargique.
Et justement, quand on a des proches qui parfois peuvent être seuls, des personnes âgées, quel conseil vous nous donnez? Est-ce qu'il faut les appeler plusieurs fois par jour? Comment on les occupe? Comment on les soutient?
Déjà, en étant conscient du fait qu'on a besoin de les aider. Vous savez, dans cet article du Lancet, il montre que le trait de caractère qui permet le mieux de résister au confinement, c'est l'altruisme. Nous, soignants, nous nous soignons nous-mêmes je suis pas sûr qu'on gère tout, je suis pas sûr qu'on prévoit tout, mais en essayant d'aider les autres le plus possible. Chacun, à son niveau, doit être capable de care, de faire attention à l'autre. Donc, plus on va prendre du temps pour les autres, ses proches, des voisins qu'on sait isolés, plus on va faire preuve d'altruisme. Ça a l'air un peu naïf quand je vous le dis comme ça, mais ça sort de manière étonnante dans des études. Plus finalement, on va sortir d'une souffrance individuelle pour finalement aller mieux. Le facteur de résilience dans le confinement, c'est le maintien du lien affectif malgré l'isolement et l'altruisme.
Alors Michel Le Joyeux, je précisais, vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie. Alors, question là encore un peu bête, mais est-ce qu'on peut se permettre peut-être de boire un petit peu plus d'alcool pour se changer les idées? Quel conseil vous nous donnez sur ce plan-là? Parce qu'évidemment, en restant chez soi, on est tenté.
Alors, première chose, sur le tabac, pardon de ne pas vous répondre directement, mais le tabagisme est un des facteurs de risque de complications de l'infection par coronavirus. Donc moi j'aurais espéré que dans ces temps où on a identifié un facteur objectif qui est que plus on fume, et on voit bien que des poumons enfumés vont moins résister au virus, donc plus on fume, plus on est en danger. Donc c'est déjà le moment d'arrêter de fumer. Et si on profite de cette double opportunité du confinement et du risque infectieux pour arrêter de fumer, c'est bien. Pour l'alcool, ce serait une catastrophe que de vivre ce confinement comme une incitation à l'ivresse. Pourquoi? Parce que l'ivresse va nous rendre rendre triste, va nous rendre agressif, parce que le fait de boire dans un petit volume qui est notre appartement va multiplier les risques de troubles du comportement. Vous savez, il y a quelque temps, quand on parlait encore d'autre chose que du Covid-10, on parlait des violences, notamment des violences intrafamiliales. Toutes ces violences sont déclenchées dans un cas sur deux par des consommations alcooliques. Donc vraiment, soyons très prudents, faisons des fêtes, mais avec de l'alcool très, très modéré, peut-être encore plus modéré que quand on avait la possibilité de bouger et de sortir.
Et dernière question, est-ce qu'il faut déjà préparer l'après-confinement? Est-ce qu'il faut commencer, imaginer peut-être ses vacances de cet été, en espérant qu'en juillet, en août, on pourra peut-être repartir? Est-ce qu'il faut déjà se projeter, ou le mieux, c'est de vivre et d'accepter l'instant présent?
Alors, il faut vivre et accepter l'instant présent, certainement. Et il faut probablement faire ce que beaucoup de psychologues cherchant la santé mentale développent, à savoir la visualisation positive. Je sais pas comment elles seront au niveau vacances, ni les miennes, mais il n'est pas interdit d'essayer de commencer à les visualiser, de se les représenter, de se faire son petit cinéma. Là, on va pas pouvoir beaucoup bouger, ça va vraiment être le temps où une fixation sur l'état présent, avec une rêverie agréable, avec pourquoi pas une musique qui va accompagner. Alors c'est pas une panacée, hein, je ne suis pas dupe du fait que ça ne va pas évidemment effacer l'ensemble du stress, mais plutôt que d'avoir des objectifs précis, ayons une capacité à reformuler et à reproduire avec le cerveau des images mentales, et de préférence des images agréables.
Eh bien, merci professeur pour tous ces conseils. Merci Michel Lejoyer. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1.
Merci.
Jusqu'à 20h et pour quelques minutes encore, nous sommes avec Mathieu Charrier.
Un jour, une histoire maintenant avec Philippe Legrand, qui chaque samedi reçoit une personnalité. On se souvient ensemble. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir Patrick Chenet.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1, acteur, auteur, on va y revenir, mais aussi fan de foot. Vous avez choisi de nous raconter le 12 juillet 1998 une victoire. Quelle victoire, celle de l'équipe de France de foot?
Oui, c'est ça. Il y a des dates comme ça qui, bien des années, voire des dizaines d'années après, ressurgissent. Et celle-là est inscrite d'une façon définitive dans la mémoire, quoi qu'il arrive. C'est ce fameux jour où l'équipe de France a gagné sa première Coupe du Monde. Et où j'étais au Stade de France avec mon
fils.
Vous étiez
sur place?
Oui, j'étais.
Vous l'avez vécu en direct?
J'étais au Stade de France, oui. C'était absolument extraordinaire. Et c'était une liesse, vous savez, la liesse populaire. Je sais pas comment on dit ça. Il y avait une espèce de
cet enthousiasme collectif
total. Ça fait tellement de bien, toute tendance confondue, toute couleur de peau, statut social confondu. C'était génial. J'étais avec mon fils, évidemment, qui a disparu depuis. Donc tout ça fait que
Ferdinand.
C'est Ferdinand. Ce sont des souvenirs très très forts, très très durs, très qui envahissent la mémoire, l'esprit, le cœur. Ouais.
Patrick Chenet, vous qui êtes aussi très intuitif, on le sent d'ailleurs dans votre livre. On va y revenir. Est-ce que vous sentiez que l'équipe de France était remontée par cet Aimé Jacquet, l'entraîneur, et finalement une équipe de vainqueurs?
Non. Et j'étais pas tout seul. Hein. Je pense que on donnait pas cher de leur existence avant la compétition. Et puis au fur et à mesure des matchs, il y a une équipe qui s'est affirmée, qui a grandi, qui s'est accomplie, un vainqueur potentiel. Et puis c'est devenu un vainqueur surtout.
Face à cette grande équipe du Brésil, l'équipe de le Brésil de Ronaldo, c'était pas gagné. Hein. Il y a eu d'hésitation, de panique, d'incertitude.
Le Brésil, c'est une équipe mythique. Hein. C'est le Brésil, quoi. Quand on joue le Brésil, on sait qu'on joue l'équipe de foot mondiale. C'était une affiche extraordinaire. Mais toute la France était remontée comme une pendule. C'était génial.
Patrick Chenet, ce 12 juillet 1998. Alors, sur le terrain, il faut revenir. Il y a des moments incroyables. Et notamment, on voit vivre et naître un Zidane incroyable qui réalise un doublé.
Oui, qui réalise un doublé. Deux têtes sur corner. Incroyable. Il était quand même déjà bien, il avait déjà un socle. Hein. Le statut n'était pas encore totalement posé, mais le socle était installé. Et je me souviens toujours, hein, on gagnait 2-0 à la mi-temps, et on était tout un groupe invité par le Club France, Jean-Claude Darmon qui s'occupait de ça. Il y a aussi des journalistes de Canal. Et j'entendais qu'ils disaient 2-0, c'est plié. Donc c'est plié, ça veut dire qu'on avait gagné. Mais il y avait quand même une mi-temps, c'est contre le Brésil. C'est vrai que la deuxième mi-temps, c'était compliqué, sauf qu'ils n'ont pas marqué. Mais ils ont envoyé, hein, ils ont envoyé le bois gravement en deuxième mi-temps. Et il y avait un suspense hallucinant. Et puis il y a le troisième but de Petit.
Emmanuel
Petit. Il a remis les pendules à l'heure, comme on dit dans les commentaires de foot. Voilà.
Et on ne s'attendait pas à l'exclusion, parce qu'il y en a eu une, Marcel Desailly.
Oui, Marcel Desailly, oui. Donc on a joué à 10, je crois, les 20 dernières minutes, ou le dernier quart d'heure, je crois. Oui, oui. Mais il y avait une espèce d'allégresse, d'euphorie, et moi, je sentais qu'il n'y avait pas de problème. On allait gagner. On y était, quoi. On avait la Coupe du Monde.
Alors l'ambiance, elle était redoublée. Il y avait oui, cet enthousiasme fou.
Il y avait une folie, il y avait les vrais supporters, et puis il y avait quand même, j'avais un petit bémol, parce qu'il y avait les invités des sponsors, c'était tendance, hein, ça allait être à la finale de la Coupe du Monde, c'était, voilà. Et les gens qui connaissaient pas grand-chose au foot, ou un peu, comme ça, vaguement, mais qui venaient à la finale de la Coupe du Monde, c'était chic. Et qui, le vrai supporter hurle. Le vrai supporter conspue. Le vrai supporter, j'aurais pas jusqu'à l'insulte parce que c'est pas bien, mais enfin, hurle en tout cas, siffle, conspue, applaudit, s'égosille pendant une heure et demie. C'est ça le vrai supporter. Et le stade ne s'égosillait pas complètement. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu.
Alors, la vie est belle, je me tue à vous le dire. Vous l'avez dit en sortant de ce Stade de France et vous l'écrivez dans ce livre, Patrick Chesnais, qui paraît aux éditions L'Archipel. Pourquoi, au fond, c'est votre philosophie, c'est votre carnet de route, votre carnet de voyage, vous racontez des instants, vos parents, votre mère, les moments étonnants, un peu de sourire avec Darry Coult, puis le ballon, parce que vous avez failli devenir joueur de foot.
Oui, c'est ça, je voulais jouer de footballeur, moi, comme beaucoup de gamins, hein. Et donc je faisais partie au FC Rouen de l'équipe des cadets, des minimes, j'ai même été international cadet, c'est vous dire. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que non, j'avais pas les qualités nécessaires. J'ai senti instinctivement qu'il me manquait un truc, que finalement je voulais décider d'être acteur parce que j'avais fait un théâtre dans ma chambre, je faisais toujours du théâtre avec des copains ou dans les campings, tout ça. Et quand j'ai annoncé à mes parents que finalement j'avais réfléchi, que je ne voulais plus être footballeur mais acteur, ils étaient rassurés. Ouf, enfin il devient raisonnable, il rentre dans le rang. Il veut faire un métier, je dirais pas comme tout le monde, mais enfin presque.
La vie est belle, je me tue à vous le dire, je parlais d'une philosophie, c'est ça, il faut trouver même dans les moments difficiles ces instants, ces lumières, ces joies qui doivent exister.
Oui, c'est la vie, hein. La vie c'est fait de... C'est ce qui en donne le prix aussi, d'abord il n'y a pas d'autre solution. Et puis la vie c'est dur, parfois c'est incroyablement joyeux, c'est des moments d'accomplissement total, d'euphorie, d'allégresse, on est à 3 mètres au-dessus du sol, puis après on est à 3 mètres sous le sol, on a des plaies, des bosses, des cabossages, et ce mélange de tout ça fait qu'on avance et sur ce chemin qu'on appelle la vie.
Un chemin qui fait près de 400 pages hein, dans ce livre, La vie est belle, je me tue à vous le dire. Il y a des cicatrices, il y a des douleurs, elles sont là dans votre livre. Mais il y a aussi, et à chaque fois qu'il y a au fond un chapitre dur, vous arrivez à trouver la phrase qui va finalement redonner confiance.
Je sais pas, vous savez, j'essaie pas de leur donner confiance, je pense que c'est malgré moi. J'essaie aussi d'avoir de l'humour. Je pense que j'ai un regard sur le monde qui m'amuse beaucoup souvent, qui passe par la dérision, où ça transparaît un peu dans mon bouquin, même dans les moments les plus difficiles, les plus atroces même. Il y a assez vite un regard un peu dans l'humour, ou une couleur un peu humoristique qui contrebalance ou qui se mélange, je sais pas.
Merci Patrick Chesnais d'être venu sur Europe 1. Nous parler de foot et un peu de votre vie.
C'était l'entretien de Philippe Legrand et c'est la fin de ce grand journal du soir, Mathieu Charrier.
Et merci à vous de nous avoir suivis pendant ce grand journal un peu particulier compte tenu des circonstances. Un merci encore plus appuyé que d'habitude aux services techniques d'Europe 1 qui font des miracles en ce moment. Kevin Ousti à la réalisation, Naïma Bencheman à la préparation. Et je vous laisse à 20h tout pile en compagnie de Jean-François Pérez pour Europe 1 Sport. Marlène, je vous dis à demain.
À demain, 18h sur Europe 1.